La radiographie du coronavirus. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Entre réapparition de cas graves chez des enfants et la multiplication des cas dans les écoles et les universités, vous nous parlez ce matin du Covid chez les jeunes.
Oui, il y a deux actus qui nous ont alertés et qui vous ont certainement vous aussi alerté cette semaine. La première qui dit que la première collectivité de cluster devant les entreprises, ce sont les écoles, les collèges et les universités. Et une deuxième information évidemment très préoccupante qui parle de 8 enfants de moins de 9 ans qui seraient en réanimation. Et ça a conduit, et vous l'avez certainement vu passer, notamment sur les réseaux sociaux, à des commentaires en disant, eh bien voilà, on peut bonder les classes, c'est pas grave, mais on ferme les restaurants, c'est pas juste, il faut faire attention parce que, eh bien, les classes, les professeurs ne sont pas protégés, ce sont les premiers lieux de contamination, c'est un danger pour nos enfants, etc. Donc je voulais un peu essayer de trier le bon grain de livret dans ces informations. Et à commencer par savoir quelle est en fait la contagiosité réelle, que disent les études à propos de la contagiosité des enfants. Donc on va commencer par cette information sur le cluster. Que disent exactement les chiffres ? Ce sont des chiffres en date du 21 septembre qui disent effectivement que la première collectivité de circulation du virus, eh bien ce sont les écoles et les universités, les deux ensemble, donc ça va de tout petit jusqu'à relativement grand, avec 899 clusters, c'est-à-dire 32%
voilà,
des clusters.
On l'a entendu, c'est un bon score.
C'est un score en tout cas qui peut être préoccupant. Mais il faut apporter plusieurs précisions. La première précision, c'est que dans cette cartographie des clusters ne sont pas intégrés les EHPAD d'une part et le milieu familial. Ah. Les deux sont exclus des chiffres,
ce qui
est un biais évident. L'autre chose, c'est que on parle des clusters qui sont en cours d'investigation. Si on élargit à l'ensemble des clusters, c'est-à-dire les clusters qui sont soit maîtrisés, soit qui ont été clôturés, on arrive à tout autre chose. C'est toujours l'entreprise qui est la première collectivité la plus touchée, avec 26% des contaminations, loin devant les écoles et les universités qui sont à 16%. On peut relativiser avec d'autres chiffres de l'Éducation nationale qui disent que aux mêmes dates, 19 structures scolaires et 1152 classes sont fermées contre 90 et 2000 la semaine précédente. Donc on est plutôt en diminution, ce qui laisserait penser que ces clusters concernent principalement les universités plutôt que les écoles et les collèges. Si vous ajoutez à cela que de très nombreuses études pointent aujourd'hui, et on le sait, que l'infection se fait plutôt dans le sens adulte enfant que dans le sens enfant-adulte, à l'heure actuelle, la plupart, en tout cas la large majorité des données scientifiques pointent vers le fait que l'école, en tout cas, est plutôt safe, en tout cas sûre pour les enfants, et que il vaut mieux, en tout cas pour le moment, garder les enfants à l'école que de les ramener chez eux. C'est ce que nous disait Alain Fischer, qui est médecin à l'hôpital Necker Enfants Malades et professeur honoraire au Collège de France, et qui nous dit qu'aujourd'hui, les données scientifiques permettent de maintenir les enfants à l'école sans que ça représente un risque accru de transmission de la maladie pour les adultes et pour les enfants.
Bon, mais que faut-il penser, Nicolas, de ces cas graves d'enfants aujourd'hui en réanimation ?
Alors ça, c'est un peu plus rapide à traiter. Il s'agit évidemment très préoccupant des enfants en réanimation. C'est une image très forte qui est très anxiogène, mais il s'agit, Guillaume, d'un effet statistique. Ça ne change rien aux chiffres. Évidemment, plus il y a de gens contaminés, plus ce genre de cas extrêmement rare va apparaître, en faire les gros titres, c'est évidemment quelque chose qu'on peut questionner. Néanmoins, ce qu'on a comme chiffre sûr, c'est que aujourd'hui, du 1er mars jusqu'au 21 septembre, en France, on ne comptabilise qu'un seul décès d'un enfant de moins de 14 ans. Il avait 6 ans, il avait beaucoup de comorbidités. Et c'est un décès qui est imputé au Covid, sans pour autant qu'on soit complètement sûr qu'il s'agisse exactement de la maladie et pas d'autres types de comorbidités. Le taux de létalité qu'on connaît pour les enfants est de 0,018% chez les 5-17 ans. C'est une étude du CDC américain. Et on sait qu'il y a une progressivité, c'est-à-dire que chez les enfants, plus on est jeune, moins on est malade. C'est un tiers des 5-11 ans et deux tiers des 12-17 ans, ce qui signifierait qu'il y a une sorte de progressivité dans la sensibilité à l'infection des plus jeunes aux plus âgés.
Mais alors, comment expliquer, Nicolas Martin, que les jeunes soient moins sensibles à la maladie ?
Alors là, pour le coup, on a essentiellement des hypothèses. Sur la question de la charge virale, a priori, la majeure partie des études indique que la charge virale est égale, est identique chez les adultes et chez les enfants, à part une étude de JAMA Pédiatrique, c'est une revue japonaise, qui dit que la quantité de SARS-CoV-2 prélevée dans le PCR d'enfants de moins de 5 ans est 10 à 100 fois supérieure à celle des adultes, mais c'est une étude unique, donc a priori, pour le moment, elle ne fait pas le poids par rapport aux autres études qui sont plus consensuelles sur le fait que la quantité de virus est a priori identique. Le consensus En tout cas, il y en a deux autres. Le premier, c'est que le temps de portage du virus est plus court chez les enfants, c'est-à-dire que les enfants réussissent à se débarrasser du virus plus rapidement que les adultes. Et également, comme je vous le disais, que les enfants transmettent moins le virus, mais de plus en plus à mesure qu'ils grandissent. C'est-à-dire que plus les enfants sont jeunes, moins ils sont contagieux pour les adultes, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à l'adolescence et à l'âge adulte.
Ce qu'on dit, hein, petits enfants, petits problèmes.
Notamment pour le Covid. Ce qu'on peut constater, par exemple, Guillaume, c'est que le Covid, c'est pas la seule maladie où les enfants ne sont pas contagieux, ou en tout cas qui est très bénigne pour les enfants, qui peut devenir beaucoup plus grave chez les adultes. On peut penser à la varicelle, par exemple, qui est une forme totalement bénigne pour les petits, qui peut devenir très grave à l'âge adulte, ou le virus d'Epstein-Barr qui donne la mononucléose, c'est la même chose. Pour les hypothèses, et pour y revenir, il y a plusieurs types d'hypothèses qui, pour le moment, dont aucune n'est privilégiée. La première, c'est que les enfants exprimaient moins les fameux récepteurs cellulaires S2-ACE2 et donc, du coup, seraient moins contaminés puisque le virus pourrait moins rentrer à l'intérieur de leur organisme. Il y a l'hypothèse de l'immunité entraînée. Mmh. Les enfants, eh bien, ils rencontrent à chaque fois... Tout virus est un nouveau virus et donc leur immunité est tout le temps stimulée, ce qui fait que du coup ils auraient un meilleur rempart contre le coronavirus. On pense aussi que le système immunitaire des enfants peut être légèrement différent pour les mêmes raisons, et notamment une cytokine, c'est-à-dire une protéine pro-inflammatoire qui s'appelle l'interféron gamma, dont on sait qu'elle est importante pour réagir dès le début de l'infection chez l'adulte. Et enfin, une raison sociologique qui est qu'en fait, les enfants, eh bien, ils sont entre eux, ils se contaminent peu entre eux, mais ils ont moins de contact avec les adultes. Les gens de leur famille, finalement, les enfants et leurs professeurs, ils sont moins en contact avec les adultes. Donc, on en revient à cette question, c'est que, effectivement, a priori, les données scientifiques nous indiquent que les écoles ne sont pas un lieu de propagation massive de maladies. En revanche, les universités, c'est effectivement plus problématique. Et là, on peut dire que la question de savoir si les étudiants se contaminent dans les amphithéâtres ou dans les soirées universitaires, ce sont des propos de la ministre qui n'ont pas vraiment de fondement scientifique.
Nicolas Martin, on va conclure avec la fake news de la semaine, l'infox. Porter un masque diminuerait la virulence de la maladie.
Oui, alors, pour le coup, c'est pas vraiment une fake news, mais justement, je voulais vous dire un peu ce que l'on peut savoir de cela, parce que ça pourrait fonctionner comme de la variolisation. Vous savez, la variolisation, c'est quand on ingère finalement moins de virus, quand on prend un tout petit peu de virus, et que du coup, on développe moins de maladies.
C'est ça, vous m'en mettrez un petit peu.
Oui, c'est ça, un tout petit peu, et du coup, c'est ce qu'on appelle l'inoculum, et ça pose la question du rapport entre la dose et la maladie, savoir si la maladie est dose dépendante. Voilà. Et par exemple, on sait que pour le VIH, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut s'infecter avec très peu de virus et que si on en a plus, on ne devient pas plus malade. Alors que par exemple, depuis peu, on se dit que pour la grippe, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'il en est du SARS-CoV-2? C'est difficile à dire pour l'heure, mais il y a un contexte expérimental qui est assez intéressant, qui est celui d'un bateau. Vous vous souvenez certainement du Diamond Princess, qui était ce bateau au tout début, qui a été un cluster étudié dans tous les sens. Eh bien, il y a un autre bateau qui s'appelle le Greg Mortimer, qui est parti de Ushuaia en Argentine pour aller en Australie. Tout le monde avait été testé à bord, mais malgré tout, il y a un cas qui a été repéré, qui s'est déclaré pendant la croisière. Du coup, mesure de confinement strict, masque pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée en Australie? En arrivée à l'Australie, on a 60% des passagers infectés, exactement comme sur le Diamond Princess, mais 80% d'asymptomatiques et 0 cas grave et 0 décès, ce qui est l'exact inverse du Diamond Princess qui n'avait pas pris les mêmes mesures. Ce qui voudrait dire que, quand on porte un masque, quand on respecte ces mesures-là, on pourrait s'infecter, mais s'infecter un peu moins, donc tomber moins malade. Ça demande à être confirmé par des études in situ et des études vraiment qui ne soient pas juste observationnelles. Mais néanmoins, porter un masque, non seulement ça vous protège, mais en plus, si vous tombez malade, a priori, vous avez des chances de tomber moins malade.
Merci Nicolas Martin. J'espère qu'on ne vous verra pas la semaine prochaine, mais
malheureusement,
si vous voulez tout savoir, j'en doute. 7h24 sur France Culture.